le jour de Sacco Vanzetti, sur le port de Dieppe. Mais comment cela se fait-il qu'il y eut seulement des guêpes le jour de Sacco Vanzetti, quand les affiches du parti disaient d'aller au port de Dieppe? À quoi cela ressemblait-il qu'il y eut seulement des guêpes?
France Culture, une voix sans mesure, Louis Aragon, 1897-1982.
Qui d'aller sur le port de Dieppe, c'était tout un roman bâti pour n'y rencontrer que des guêpes le jour de Sacco Vanzetti. Qu'est-ce que tu croyais, petit, qu'il allait se passer à Dieppe? Aussitôt venu que parti, pour n'avoir trouvé que des guêpes le jour de Sacco Vanzetti. Tu étais malheureux, fautif, pour espérer autant de Dieppe. Comme un changement pressenti, mais c'était compté sans les guêpes le jour de Sacco Vanzetti. Le mal d'aimer qu'on s'en sortit en criant sur le port de Dieppe. Tu le croyais ferme et tu t'y trouvas tout seul avec les guêpes le jour de Sacco Vanzetti. La nuit d'après, tu t'es menti dans ce vulgaire hôtel de Dieppe, indifférent à la partie qu'avaient bien pu jouer les guêpes le jour de Sacco Vanzetti.
L'écriture n'est jamais que le prolongement d'une lecture.
Olivier Barbarin.
Et l'hétéroclite aragonien va donc être un élargissement chaque fois des sources d'inspiration qui sont les siennes. Il est frappant de voir que dans ces années 54, 53, 54, 55, années donc où le poète Aragon est en défaut vis-à-vis de sa propre parole, il va de nouveau, en effet, relire, lire, découvrir ou redécouvrir les poètes soviétiques, les poètes de l'Est, mais aussi s'intéresser au romantisme français, oser parler davantage des écrivains qu'il aime et dont il ne parlait pas sous la pression de textes plus directement politiques.
Qui, par exemple
Marceline Desbordes-Valmore, il faut attendre quand même ces années 50 pour savoir qu'Aragon en est un grand lecteur.
Il faut quand même dire à quel point Aragon a renouvelé la poésie française. Il a effectivement inventé de nouvelles versifications, de nouvelles mesures, de nouvelles rythmiques. C'est un formidable inventeur de poésie, quoi.
Le renouvellement qui est accompli à partir de 56 et jusqu'à la mort d'Aragon, ou presque, est une période, si on peut parler de période, et en tout cas une ère dans l'écriture d'Aragon, absolument magistrale et époustouflante. Aucun livre ne se répète. Chacun des livres, que ce soit Les Poètes, Elsa, Le Fou d'Elsa, réinvente les moyens de l'écriture chez un homme très âgé. Et cette réinvention s'établit sur tout le rapport au passé, de plus en plus énorme. Il manipule de plus en plus de textes, de plus en plus de références. Il brasse dans une sorte de noyade retenue qui fait là encore l'impact émotionnel des œuvres d'Aragon, et en même temps d'ouverture à toutes les questions de la poésie moderne vis-à-vis desquelles, et des plus jeunes poètes vis-à-vis desquels, il entretient un rapport de complicité, un rapport de soutien pour leur donner la parole, rejoint en partie sa propre jeunesse, mais se souvenant aussi qu'il n'avait peut-être pas beaucoup de soutien des plus âgés, ouvrant son journal Les Lettres Françaises à des écritures d'une modernité parfois très brutale, ce qui conduit, là encore, Aragon à une étrange représentation d'Aragon, ce poète du lyrisme, ce poète de l'intériorité du moi, de l'amour, tout thème qu'on croit rebattu, entretenait des relations avec des théoriciens très durs, du rapport aux signes, pouvait recevoir un jeune poète tel qu'Elien et discuter avec lui et se servir, à sa manière très aragonienne, mais se servir de ce qu'on lui avait dit et puis essayer de voir ce que lui pouvait en tirer.
Pourquoi supprimez-vous la ponctuation ? Et qu'est-ce qui vous le permet ? À la deuxième, je pourrais répondre tranquillement que je me permets tout. Et surtout que personne ne peut me permettre ou ne pas me permettre quelque chose dans ces matières. La ponctuation, et Dieu merci, au moins une chose au monde qui ne saurait être de commandement. D'abord, la ponctuation n'a pas toujours existé. Au Moyen-Âge français, on ne la trouve pas dans les vers. Et ni le latin, ni le grec, ni l'arabe ne la connaissent ou ne la connaissent que tardivement et partiellement. La ponctuation est apparue seulement, la ponctuation, comme on dit, il met ou il ne met pas la ponctuation, est apparue seulement avec l'imprimerie, c'est-à-dire quand il s'est agi d'être lu par un grand nombre de lecteurs. Et elle est didactiquement employée pour ceux qui ne seraient pas capables de lire sans elle. Pourquoi ne faut-il pas de ponctuation, à mon sens, dans le vers ? Car qu'est-ce que le vers ? C'est une discipline de la respiration dans la parole. Elle établit l'unité des respirations qui est le vers. La ponctuation la brise, autorise la lecture sur la phrase et non sur la coupure du vers, la coupure artificielle, poétique de la phrase dans le vers. Ainsi, le vers compté et rimé est anéanti par le lecteur qui ne s'arrête pas au bout de la ligne, ne fait pas sonner la rime, ni en général les éléments de la structure du vers, assonance intérieure, sonorité répétée, etc. La suppression de la ponctuation d'abord a été établie par Mallarmé, puis plus complètement par Apollinaire. Elle s'est généralisée dans le vers français moderne.
Peut-être simplifiez-vous un peu, car il me semble que vos critiques veulent parler des diverses formes que vous employez entre les vers comptés et rimés et la prose.
Ceci aussi mérite examen, car dans cette marge, entre le vers compté et rimé et la prose, j'écris également des vers d'autres mesures que les mesures jusqu'ici employées, mais qui ne diffèrent pas des vers plus courts, je veux dire du point de vue des règles. Ce sont des vers de 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 syllabes. On a dit de mon vers de 16 syllabes que c'est en réalité chez moi le goût de celui de 8 qui me le fait employer. On peut effectivement ainsi le considérer. Mais comment se fait-il alors que personne, chez les autres comme chez moi, ne songe à considérer l'alexandrin, et ceci malgré la césure fortement marquée, comme un vers de 6 répétés. En réalité, si parmi mes vers de 16 syllabes, il y en a où la coupure est 8-8, il y en a aussi de 12-4, de 9-7, etc. Moins sensible à l'oreille, la mesure 15, 17 ou 19 n'est pas jusqu'à présent l'objet de commentaires. Il est vrai cependant que l'introduction des vers longs s'accompagne chez moi de vers non comptés qui constituent de longues respirations alternant avec de plus courtes qui ne sont pas de coupures égales. Et que c'est cela contient, je pense, plus généralement pour de la prose non ponctuée.
Alors, ces vers non comptés, que l'on tient généralement pour de la prose non ponctuée, et dont vous introduisez ici l'idée, peut-être est-ce que vous pourrez nous dire ce qu'ils sont pour vous?
Eh bien, ce sont à vrai dire des versets qui relèvent de la tradition des psaumes, des textes sacrés. On les a vus reparaître chez des poètes comme Claudel, Saint John Perse, Patrice de la Tour du Pin, en quoi ils ne sont pas de la prose, mais des vers, cela ne peut se définir pour qui n'en a pas l'oreille, pour qui n'en a pas, dirais-je, le souffle d'entendre. Remarquez qu'ils ont particulièrement leur place dans le Fou d'Elsa pour cette raison qu'il y a un exemple qui est le Coran. Le Coran est ainsi écrit. Mais il est vrai que cette sorte de vers également exige la disparition de la ponctuation qui le transformerait en prose, en bouleversant des tenues de voix.
Donc je vais vous demander de nous parler de la prose dans vos poèmes, si vous voulez.
Eh bien donc, effectivement, comme on me le dit, la prose est chez moi ponctuée. Qu'on ne me le reproche pas comme pour les vers. Alors mes critiques font remarquer, dans une prose ponctuée, que la présence de modes d'élocution, qui selon eux n'appartiennent qu'aux vers, est déplacée. Par exemple, les inversions, les rimes ou assonances, des coupures à la taille de l'alexandrin ou de l'octosyllabe. Ceci existe-t-il dans cette prose qui est la mienne? Mais oui, parfaitement. Et je dois m'excuser de ne pas respecter, par exemple, les vieilles règles de la prose suivant laquelle elle ne doit pas être consonante, ce qu'on m'a appris au lycée, que je n'ai pas oublié par hasard. Mais c'est que, voyez-vous, j'entends écrire de la prose libre, comme, il n'y a pas si longtemps, les écrivains réclamaient le vers libre. Et ce n'est pas une chose de deux jours dans ce que j'écris. Par exemple, dans Le Paysan de Paris, les alexandrins foisonnent, il faut le dire. Si bien d'ailleurs qu'à une époque où, dans le milieu auquel j'appartenais, on considérait le rappel dans les vers des formes classiques du vers comme la preuve de modérantisme, d'antimodernisme, alors qu'on faisait à ceux d'entre nous chez qui pointait brusquement un alexandrin dans ses vers un véritable procès d'intention, les vers qui étaient dans la prose du paysan de Paris passaient inaperçus. Pour la prose comme pour le vers, la poésie tient à ces mystères intérieurs du langage.
En 1961 paraissent des fragments du Fou d'Elsa dans les lettres françaises. Alors ce poème en prose, ou cette poésie romanesque, en tout cas ce mélange de prose et de poésie, est édité en 1963 chez Gallimard. Alors, comment ce livre, très belle histoire d'un fou dans l'Andalousie musulmane, est-elle lue par le spécialiste de l'islam que vous êtes, Christian Jambet?
Ce qu'on peut d'abord dire, c'est que l'Aragon a admirablement restitué en langue occidentale, donc en langue française, ce qu'on peut ressentir lorsqu'on lit la poésie arabe ou la poésie persane. Les formes mêmes des poèmes ne peuvent pas être respectées, c'est-à-dire en particulier dans le Ghazal, il y a un rythme qui est dû à la langue arabe ou à la langue persane qui ne peut absolument pas se restituer en français. Et pourtant, ce que les auteurs mystiques musulmans appellent le hal, qu'on peut traduire par l'état mystique ou l'état d'enthousiasme spirituel provoqué par le poème et provoqué par la poésie d'Aragon.
Vous voulez dire comme s'il s'agissait d'une traduction presque ?
Non, c'est mieux qu'une traduction, c'est autre chose qu'une traduction. Nous avons des traductions. Mais il parvient à restituer le hal, l'état spirituel lui-même, qu'il veut provoquer, et qui est ici essentiellement une tension amoureuse extrême, de la même manière que les formes poétiques propres à l'islam le provoquent. Ça, c'est la première chose qui est tout à fait remarquable. C'est-à-dire, lorsque soi-même on essaye de traduire en français de la poésie arabe ou de la poésie persane, on se heurte à la langue française, à d'autres voies poétiques que ces langues, et on admire la manière dont Aragon y est parvenu. Ensuite, le titre lui-même, le fou d'Elsa, c'est ça qu'il s'agit de savoir, de quel fou il s'agit, quelle est cette folie. Or, ce qui a, pourrait-on dire, attiré Aragon du côté du thème du fou, c'est bien entendu l'histoire et la poésie propre au Mejnoun, c'est-à-dire à ce jeune arabe d'une tribu qui va ainsi de campement en campement, qui est amoureux de Leïla, et pour qui l'amour de Leïla devient l'équivalent de l'amour de Dieu, et même supérieur aux formes les plus extrêmes de l'amour que l'on a pour Dieu.
C'est un thème assez traditionnel tout de même dans la poésie mystique musulmane.
Dans la poésie mystique et dans la poésie, pourrait-on dire, dépourvue de sens spirituel propre, les couples d'amants et d'amants impossibles, pourrait-on dire, ont à la fois une valeur mystique et une valeur temporelle. Et l'amour humain est réversible en amour divin. Et c'est cette réversibilité de l'amour humain et de l'amour divin qu'Aragon a repris entièrement à son compte.
Oui, jusque dans la temporalité elle-même, par ailleurs.
Alors, dans la temporalité, on sait que, alors, dans la mise en scène même du fou d'Elsa, tout se passe comme si ce jeune vieillard ou ce vieux jeune homme, il y a toute l'ambiguïté qui vient du fait que c'est un vieil homme qui parle et en même temps un homme qui est hors de tout âge et qui a la jeunesse de son désir. Eh bien, le vieux conteur qui est le fou lui-même, le Mejnoun, et qui est contemporain de la prise de Grenade, qui vit à Grenade au moment où Grenade agonise, le Mejnoun, c'est que l'objet de son désir est impossible, cette fois-ci non pas comme dans le cas de Leïla, parce que la femme a épousé un autre homme et subi la loi de la tribu, mais parce que la femme n'est pas encore venue. La femme, c'est l'inaccompli. D'où ceci que le fou soit fou d'Elsa, et qu'Aragon mette en scène admirablement le fait que quelqu'un qui se nomme d'un nom imprononçable en arabe, ou si prononçable en arabe en tout cas, n'appartenant pas au lot des racines arabes, Elsa, que cela surgisse au temps d'Andalousie. Or, Elsa est une femme de l'inaccompli. Et en tant que femme, elle est l'inaccompli même. Et le mot inaccompli est très souvent prononcé en lieu et place du futur.
Oui, c'est ça.
Il n'y a pas à proprement parler de futur.
C'est un temps, hein ?
L'inaccompli est un temps. Alors, il y a deux temps, l'accompli et l'inaccompli, en arabe, qui ne correspondent pas exactement à ce que nous appelons, nous, le passé et le futur. L'inaccompli, d'abord, peut se traduire aussi bien par un présent que par un futur, ou même, d'ailleurs, par n'importe quel temps, qui laisserait percevoir que la chose dont on parle est en train de se faire, n'est pas achevé. Tandis que l'accompli peut désigner quelque chose qui soit éternellement, soit temporellement est achevé. Si l'on veut dire que Dieu crée éternellement, on le dira à l'accompli, parce que c'est un geste qui s'accomplit de toute éternité. Mais si on veut dire que Dieu veut que quelque chose soit dans l'ouverture à l'être qui est encore à venir, alors on dira ça à l'inaccompli. Le Coran dira ça à l'inaccompli en l'occurrence. Et c'est ce temps de l'inaccompli qui est la véritable temporalité du fou d'Elsa. C'est-à-dire que la femme est inaccomplie, et c'est en ce sens qu'apparaît la sentence fameuse qui veut que l'avenir de l'homme soit la femme. Quand Aragon, ou quand le fou, dit l'avenir de l'homme, c'est la femme, il ne veut pas dire qu'il y a un futur d'ores et déjà écrit, d'ores et déjà achevé de l'homme qui serait la femme, mais que la femme, c'est le nom de l'indicible, et l'indicible que d'autres nomment Dieu, cet indicible, c'est proprement ce qui est inaccompli de l'homme. Donc, tout ce que l'homme est en droit d'espérer et qui est toujours déjà inaccompli, qui ne peut pas s'accomplir dans le temps, parce qu'il est toujours au-delà de tout accomplissement dans le temps, c'est ça que symbolise la femme avec un grand F. Et la femme et l'avenir de l'homme, ça veut dire ça, l'inaccompli et l'avenir de l'homme. L'avenir de l'homme n'est pas achevé, n'est pas réglé, n'est pas déterminé. Au fond, le nom de la femme, c'est le nom de la liberté. Et par conséquent, tout ce que la poésie arabe dit de la femme, elle le dit de l'inaccompli. Et le coup de génie d'Aragon, c'est d'avoir vu que cette femme qui est absente de la vie achevée, de la vie ordinaire, de la vie quotidienne, la société musulmane est une société d'hommes, cette femme surgit ailleurs, dans l'au-delà de cette société d'hommes, elle surgit comme un point idéal qui désigne le tout autre.
Eh bien, je vais vous raconter comment ça s'est produit. J'ai commencé à écrire Le fou d'Elsa, j'en ai écrit peut-être une centaine ou un peu plus de pages, sur la foulée d'une certaine idée de Grenade et historique et métaphorique, puisque Grenade est une image de la vie. J'avais donc écrit un peu plus de 100 pages, et à ce moment-là, je me suis senti le besoin de confronter un certain nombre d'idées anciennes que je pouvais avoir concernant la langue arabe et le point où j'en étais dans mon livre. L'arabe classique, je ne l'avais pas appris, mais j'ai toujours eu un certain goût de la philologie, et quand j'avais 20 et quelques années, il m'est même arrivé d'entreprendre cette chose un peu folle, c'était en pleine époque surréaliste, et j'ai eu le goût, comme en cachette, de me mettre à apprendre une langue qui n'était pas d'une utilité immédiate, c'est le malais. Lorsque j'ai donc été à ce point de mon livre, il m'est venu à l'idée qu'en réalité dans l'arabe, le temps futur n'existe pas. Et je me suis demandé ici quelles incidences sur la conception même du temps cette absence du futur pouvait avoir. Comment, au fond, dans un peuple qui n'a point la forme future du verbe, se fait la conception du temps? À quoi elle répond, si elle n'est pas différente de notre conception du temps à nous? C'est à ce moment-là que j'ai été demandé conseil à un de nos plus grands spécialistes de ces questions, je veux dire, des langues sémitiques, qui s'appelle Marcel Cohen, et qui a publié un livre en 1924, très exactement, qui s'appelle « Le système verbal sémitique et l'expression du temps ». C'est en m'appuyant beaucoup sur Marcel Cohen que je me suis permis un certain nombre de métaphores qui se trouvent dans toute la texture du livre et qui permettent de dire un héros de mon livre du temps. C'est parce que je voulais expliquer la vision d'Elsa par le fou que j'ai insisté sur le temps. Or, en réalité, j'avais commencé à poser mes personnages, disons, en toute naïveté, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde qu'un homme de la fin du XVe siècle voit ce que je vois. Et puis, c'est en réfléchissant sur la langue elle-même, sur la grammaire, par quoi pouvaient peut-être s'expliquer les concepts d'un peuple qui pensait les choses différemment de nous, que j'en suis venu à essayer de mettre au point mon héros temps de mes héros humains. En fait, j'ai dû réécrire une grande partie des choses que j'avais déjà écrites à partir du moment où cette idée a commencé à prédominer en moi. Parce que j'avais employé très naturellement, ci et là, en écrivant la forme future. Nous ne le remarquons pas, même quand nous ne le savons pas, très souvent, nous mêlons le temps futur au temps passé et présent, sans nous en apercevoir. Et en relisant, je me suis aperçu que je devais, dans ma langue française, faire disparaître ce temps qui n'existait pas dans la langue arabe, pour permettre de toucher plus directement à la conception sémitique du temps. Futur. Cette forme verbale n'existe pas en arabe. Elle s'exprime par d'autres moyens, comme il nous arrive de le faire en français. Quand une mère crie sur la plage « on s'en va » et que l'enfant répond « je viens », ni l'un ni l'autre ne bougeant, ce ne sont pas là des mensonges, mais des formes du futur employant le présent. Certains verbes au présent, servant d'auxiliaire à un infinitif, ont en français même caractère intentionnel ou immédiat. « Je vais venir », par exemple. Dans ce poème, l'auteur s'est donc abstenu des formes propres du futur en sa langue, sauf quand il fait parler des non-arabes.
Il est évident que le fait de prendre sur le christianisme, sur la chrétienté espagnole, le point de vue de l'islam, est évidemment en soi déjà un geste de fracture, de rupture.
Un geste politique.
En 63, c'est un geste politique. Mais plus profondément, la civilisation islamique qui est ici opposée à l'Espagne chrétienne, à l'Espagne, à la Castille, qui va bientôt découvrir l'autre monde grâce à Christophe Colomb, mais qui en attendant est en train de reconquérir l'ensemble de son territoire, cet islam, c'est un islam vaincu. Et ce qui, dès le début du poème, nous est dit, c'est que Aragon s'intéresse à une figure de roi, le roi Boabdil, dont l'histoire officielle a fait à la fois un traître et un vaincu. Il rappelle d'ailleurs que l'une de ses sources, c'est un texte absolument merveilleux de Maurice Barrès dans « Du sang, de la volupté et de la mort », par où l'on retrouve la filiation Barrès-Aragon.
Mais oui.
Et malheureusement, dit-il, confirmation lui en a été donnée par une visite à Barrès, Barrès était absolument persuadé que la figure du roi Boabdil était une figure certes pathétique, mais absolument abjecte. Et Aragon réhabilite ce petit roi de la Grenade andalouse et il prend le parti de ceux qui sont, au fond, calomniés par l'histoire. L'islam dont il s'agit dans le Fou d'Elsa est une symbolique du vaincu chassé de l'histoire officielle par le vainqueur. Donc, dans le rapport entre l'Occident et l'islam, d'abord, rappelons-nous qu'ici, il s'agit d'un islam occidental.
Oui, tout de même.
Il s'agit de l'Andalousie. Et que, par conséquent, ce qui est en train de se dénouer, c'est le lien entre une culture à son apogée, qui fut une culture de la poésie et de la splendeur ou de la beauté, c'est ainsi qu'Aragon la présente, la culture andalouse, et puis une culture qui est symbolisée par les bûchers, les croix et l'intolérance. C'est comme ça que la Castille apparaît dans le poème. Ce qui n'empêche d'ailleurs pas un certain nombre d'admirables passages de nous montrer comment, dans la panique de Grenade, la populace en vient à détruire et en particulier à s'attaquer aux Juifs, exactement comme par ailleurs les Castillans les brûlent. On est dans un univers où triomphe essentiellement la violence politique. Et au milieu de cette violence politique s'élève la voix de celui qui proclame l'inachevé, c'est-à-dire la femme.
Le fou, quoi.
Le fou. C'est ce rapport très complexe entre un poème politique
qui, au fond, prend le parti d'écrire l'histoire
du point de vue des vaincus,
du point de vue des vaincus,
et d'autre part un certain rapport à l'islam qui est à la fois un rapport d'enthousiasme spirituel. Visiblement, il y a un attachement très profond aux discussions théologiques ou philosophiques de l'islam.
Oui, sur lesquelles il a travaillé
énormément. Et puis, d'autre part, le fait d'avoir trouvé en islam la configuration de la femme en tant qu'elle n'existe pas, mais en tant qu'elle est le symbole de l'inachevé.
Et puis peut-être ce désir, Christian Jambet, de renouer avec une partie très méconnue des origines de la poésie occidentale, qui nous viendrait aussi de l'Orient, d'une certaine manière.
Bien sûr, Aragon se situe dans la lignée de la poésie provençale ou catalane ou italienne.
C'est presque un geste originel, d'une certaine manière.
Voilà, alors il tente de retrouver ce geste par lequel ces poésies ont reçu l'influence de la mystique d'amour musulmane, et en particulier du thème qui veut que l'âme ait un devenir angélique et aille à la rencontre de son autre, qui est l'ange personnel qui doit assurer son salut. Alors, il est probable qu'Aragon a lu Hacine Palacios, qui était l'auteur d'un livre sur l'eschatologie musulmane dans son rapport à l'œuvre de Dante. Il est on ne peut plus probable qu'il a lu Corbin, on est sûr qu'il a lu Massignon, et du même coup, il est très sensible au fait qu'avant lui, toute une tradition poétique est héritée de la métaphysique et des réflexions sur l'unification de l'amant et de l'aimé propre à l'islam.
Donc il s'agit aussi effectivement pour le poète de redécouvrir un continent perdu qui est purement, qui est aussi un continent d'écriture, un continent littéraire.
Disons que le Fou d'Elsa, de ce point de vue-là, est l'une des étapes dans cette histoire d'amour qu'entretient Aragon avec la tradition des troubadours. Puisque par ailleurs, il flirte avec la tradition des troubadours sans cesse dans d'autres recueils. Là, c'est lui-même qui se fait troubadour, c'est-à-dire qui emprunte à la poétique d'islam quelque chose qui a rendu possible l'amour courtois. Et Le Fou d'Elsa est en ce sens un livre d'amour courtois.
J'étais d'une armée en retraite à travers le pays de ma douleur. Nous l'avions traversé des brumes du nord au soleil tragique de l'extrême midi. Rien ne pouvait plus être espéré. Notre grenade à nous était déjà tombée. Dans une petite ville comme une paume ouverte, soldats déconcertés, nous assurions encore l'ordre des charrois. L'un de mes hommes, un jeune garçon, avait été mis là sur une place où se croisait la diversité des chars et des arabats. Une cité d'avant Boabdil, et le poète ici dont je me souvenais était de ceux qui, au XIIe siècle, permettez que je ne compte pas selon l'égir, avaient marié les leçons du chant mort à la nostalgie de chez nous. Bref, notre homme de garde, ici planté au carrefour, agitait ses bras comme un moulin qui n'aurait jamais fait autre chose, et la docilité des fuyards des régiments en retraite à ses signaux inventés était surprenante et burlesque, une docilité déchirante.
Ce qu'il y a d'essentiel dans le fait qu'il ait repris ici une tradition d'islam, parce qu'on peut se demander pourquoi c'est en islam qu'il est allé le chercher, c'est ceci que l'islam doit ménager entre le Dieu inconnu, le Dieu transcendant et sa créature, une médiation. Et on doit citer ici le nom du grand mystique El-Hallaj, sur qui Louis Massignon a écrit le livre monumental qu'on sait, sur la passion d'Al-Hallaj, et Al-Hallaj a frappé énormément par son exemple Aragon, en ceci que Hallaj, pour atteindre Dieu et s'unir à Dieu, fait le vide en soi-même de tout son être, accueille Dieu au point de pouvoir dire « je suis le réel, je suis Dieu », et dans cette extinction de soi-même pour accueillir l'aimé, l'amant, en l'occurrence le mystique, est obligé de transgresser la loi musulmane. Donc l'amour se veut hors la loi.
Une transgression.
Et la transgression est punie d'un châtiment extraordinairement sévère et d'un supplice qui fera date dans l'histoire d'un mystique de l'islam. Donc ce qu'en retient Aragon, c'est que, d'une part, la femme est la théophanie par excellence, la manifestation du divin par excellence, parce qu'elle est cette manifestation d'inaccompli, comme on l'a dit, mais que si la femme est théophanie, manifestation de Dieu, alors l'amant est devant la femme, exactement comme le mystique halladjien est devant son Dieu, il est dans la dépossession et l'extinction de soi-même, d'où les poèmes admirables sur l'extinction de soi qui font le cœur du fou d'Elsa, et que cette extinction de soi offense la loi, de sorte que dans la cité musulmane de Grenade, le fou est lui-même, un petit peu à l'imitation de Hallaj, victime de son amour, en tant que cet amour le fait immédiatement être en désaccord avec la loi même qu'il a reconnue. Et le mystique ou l'amant doit mourir maudit par les siens et appelle sur lui le meurtre que les siens vont accomplir, « tuez-moi, mes amis », n'est-ce pas, dit Hallaj, et ce « tuez-moi », cette espèce d'extinction qui va à la limite d'elle-même, c'est ça le thème essentiel du fou d'Elsa, et c'est ça que dans la mystique islamique, Aragon reprend pour essayer d'en faire la forme même du discours sur l'amour humain. Donc tout ce qui est dit de l'amour divin est ici dit de l'amour d'Elsa, Elsa étant le nom de l'inaccompli.
Oui, c'est un livre, Christian Jambet, extrêmement polysémique, finalement, Le Fou d'Elsa. Hein. On peut le regarder de plusieurs manières et l'interpréter du point de vue, effectivement, littéraire, du point de vue de l'histoire, de la poésie, de la sexualité même, du politique. On peut lire, finalement, à toutes sortes de degrés.
À tous ces registres. Le registre essentiel restant celui, bien entendu, de l'amour, au sens où ce qui importe est que la femme soit exhibée comme l'indicible, ce qui n'a pas de nom, ce qui ne peut être approché que par la voie négative. Et alors, il y a une masse intense de poèmes qui sont tous faits pour dire ce caractère indicible. Toute la poésie est une poésie négative, au sens où on parle de théologie négative. Et d'autre part, c'est un poème athée, où Dieu est sans cesse présent. Parce que tout simplement, tout ce qui se dit de Dieu peut se dire de la femme, et c'est encore en prenant les formes qu'on a utilisées pour parler de Dieu, qu'on parle le mieux de la femme, selon Aragon. Mais, encore une fois, ici, cette femme est elle-même métaphore de l'inaccompli, et l'inaccompli rejoint la politique, alors, puisque vous en parliez voilà, très justement, en ceci que la politique ici, c'est la politique à son crépuscule, c'est celle des vaincus. Et il est tout à fait extraordinaire que, dans un geste presque baudelairien, Aragon conjoint la figure de la femme à la figure de ceux qui entrent dans la nuit, de ceux qui entrent dans une nuit où ils vont eux-mêmes s'éteindre. L'extinction de l'amant devant l'aimé rejoint l'extinction d'un peuple qui va être rayé de la carte et qui est le peuple andalou. Alors, l'avenir est présenté ainsi comme le discours de ceux qui n'ont pas de discours. En ce sens, c'est aussi, et ça n'est pas contradictoire avec tout ce que nous avons dit, un poème essentiellement communiste.
Pouvez-vous avoir envie parfois, Elsa et Louis, de quitter votre maison de Saint-Arnoux en Yvelines ?
Non, jamais. D'ailleurs, nous le quittons très peu. Nous le quittons pour le travail, pour venir à Paris. Mais pour le reste du temps, nous avons choisi cette maison précisément parce que le pays alentour nous plaisait beaucoup. Mais nous ne sortons jamais de chez nous, en fait. Il y a trop de travail et... le jardin prend Elsa, les arbres, les chemins m'occupent, et finalement nous ne sortons jamais.
Il y a combien de temps que vous êtes installé ici ?
Nous y sommes depuis 8 ans.
Oui, presque 9 ans déjà.
Et dans quel état c'était quand vous l'avez trouvé ?
Bien, la maison était très bien, telle que vous la voyez maintenant. Le jardin, il n'y en avait pas, c'était un terrain vague. Mais c'est ça, le plaisir de la campagne, c'est de faire d'un terrain vague un jardin.
Est-ce que vous voudriez essayer de nous décrire un peu cette maison ?
Oh, c'est une vieille ferme, c'est un moulin dont on a enlevé la roue et laissé la cascade qui traverse la maison, ce qui est un amusement, le grand opéra.
Moi, je dois dire que cette maison m'a servi à une chose fondamentale, elle m'a sauvé la vie parce que je me portais très mal, j'avais des choses au cœur et tout ce qui peut me permettre de survivre, c'est le fait qu'ici il y a l'oxygène d'une part et d'autre part le travail physique, enfin le travail physique sérieux.
C'est-à-dire, vous entendez par cela le travail qui consiste à s'occuper des arbres, des fleurs, des velours.
Ah non, 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 les fleurs, c'est Elsa. Moi, je ne suis pour rien dans les fleurs.
Eh bien, si vous...
Moi, je fais le terrassement, j'abats des arbres, je m'occupe de toutes les choses qui permettent qu'on passe à travers la jungle sans cesse renaissante. Je fauche pendant des heures.
Et Elsa ?
Enfin, je laisse à Louis le ménage, pour ainsi dire, de la nature. Commencer le ménage, ce n'est jamais fini. On recommence constamment. Moi, je sème, je plante, je coupe les fleurs fanées, j'en repique d'autres, etc.
Une fleur à votre préférence ?
Non. On croirait que ce sont les roses à cause de mon dernier roman, mais pas en réalité. J'aime toutes les fleurs et j'aime changer. C'est pour ça que j'aime beaucoup les fleurs annuelles, pas seulement les fleurs vivaces. Parce que comme ça, on est obligé de les changer. On en met d'autres, d'autres couleurs.
Comment se passe une de vos journées à Saint-Arnoult-en-Yvelines ?
Louis se lève très tôt. Il se lève souvent à 6 heures du matin. Et puis, où il écrit, où il s'en va dans les bois faire son travail de faucheur et de faire son terrassement, tandis que moi, je me lève très tard parce que j'écris toujours au lit et ici j'écris beaucoup, alors je n'apparais que vers midi, 1 heure.
En fait, cette maison a l'air surtout de produire des fleurs, il sort beaucoup de livres.
...1964.
Vous savez que je viens d'être embringué dans une curieuse affaire avec Elsa Triolet. Un éditeur nous a fait éditer nos romans complets.
Oui.
Les œuvres romanesques croisées d'Elsa Triolet et Aragon, ça s'appelle. À cette occasion, nous avons d'abord pensé que, par exemple, que le mot croisé avait une signification pour nous purement physique. L'alternance des tomes n'est pas nécessairement
comporte de vous
l'un
et
de l'autre
et Elsa.
Irrégulièrement et pas du tout les uns après les autres. Or, dans la pratique, nous nous sommes aperçus que ça signifiait tout à fait autre chose et le concept du croisement a changé au fur et à mesure que nous avancions dans la constitution de ces 32 volumes qui ne sont pas une simple juxtaposition des textes, mais en même temps une révision de ces textes, une vue de la part de chacun de nous sur nos propres livres critiques, et ce qui m'a amené même à réécrire entièrement Les communistes, par exemple, c'est-à-dire 6 volumes, et moins complètement, mais tout de même dans une grande mesure, Les voyageurs de l'impérial. Nous avons vu aussi une autre chose, l'un et l'autre, en reconnaissant dans nos livres des choses que nous n'y avions peut-être pas vues en les écrivant. Ceci beaucoup parce que les livres de l'un éclairent les livres de l'autre. Et moi, par exemple, ce qui m'a frappé, alors que toute ma vie, on m'a parlé de la dissemblance de mes livres et particulièrement de mes romans, dissemblance à laquelle d'ailleurs je dois dire je croyais, parce que j'ai toujours fait mes efforts pour écrire différemment. Chacun de mes livres, dans une certaine mesure, est une contradiction du livre précédent. et c'est encore ici, malgré les ressemblances entre la mise à mort et Blanche ou l'oubli, c'est encore vrai. Mais, tout d'un coup, ce qui m'a sauté aux yeux, ce sont les ressemblances. En réalité, je n'ai pas changé pendant 50 ans. Le langage, qui semble nouveau aux gens, était déjà le langage de cette époque. Les choses de la période surréaliste aussi ont leur liaison directe dans le fragment d'un roman que j'ai détruit, car j'ai écrit un roman dont j'avais écrit plus de 1500 pages, et que j'ai détruit en 1927, mais dont quelques fragments avaient paru en revue, et s'appelait Le Cahier Noir. Le personnage principal, la femme du Cahier Noir, s'appelle déjà Blanche. Vous retrouverez d'autres Blanches dans presque tous mes romans, et je ne l'ai pas fait exprès. Comme si j'avais pour certaines femmes imaginaires spécialement inventé ce nom. Mais ici, la ressemblance va beaucoup plus loin. Par exemple, on s'est beaucoup étonné au moment de la Semaine Sainte du fait que dans la Semaine Sainte, il y avait des interventions de l'auteur, contrairement à la loi formelle de Balzac. C'est que les gens ne les avaient pas remarqués avant. Mais par exemple, dans les cloches de Bâle, la dernière partie des cloches de Bâle est entièrement un discours de l'auteur. Tout ce qui s'appelle Clara est basé sur le fait que j'ai vu, moi, de mes yeux, Clara Zetkin à la fin de sa vie. Et c'est un discours lyrique qui annonce le contenu de mes livres à venir.
Une chose qui me paraissait, quand j'étais étudiant, donc quand j'avais une vingtaine d'années, une chose qui m'a paru tout à fait étonnante de la part d'Aragon...
Guy Scarpetta.
C'est un petit livre qui a dû paraître en 65, qui s'appelait « Les collages », et où il semble qu'Aragon ait, d'une certaine façon, ramassé sa vie à travers un problème esthétique particulier, au-delà de toutes les ruptures et de toutes les dispersions qui ont marqué cette vie. C'est-à-dire, c'est le premier livre, à mon sens, qui marque chez quelqu'un dont on a évoqué le parcours et le destin en termes de rupture radicale, de changement de période, etc., qui marque une continuité.
Oui, parce que les collages, c'est déjà un problème qu'il se pose à l'exposition Max Ernst.
Voilà, alors les collages, jeune, ça 23, commence par un texte en 1923, formidable de 1923 sur Max voilà. Ernst, évidemment pris dans la grande utopie avant-gardiste de l'époque, c'est-à-dire qui n'est pas loin de dire que la peinture est morte et que désormais c'est le collage, l'absorption de l'objet concret qui va s'y substituer, qui se prolonge par un texte de 1930 qui s'appelle « La peinture au défi ». 1930, c'est le moment de la rupture avec le surréalisme. Et au moment même de cette rupture avec le surréalisme, au moment où il va se proclamer réaliste, est publié ce texte où il parle de Picabia, de Miro, de Picasso, ce qui d'ailleurs devrait amener à nuancer cette idée de rupture. Et il y a, en particulier sur Miro et sur Picabia, quelques-uns des développements les plus pertinents qui aient jamais été écrits. Puis en 1935, alors là, pleine période militante, et à l'époque où en Union soviétique, il faut toujours resituer ça dans le contexte avec Aragon, il y a toujours une stratégie de petite subversion par rapport au contexte, bon. Presque invisible, mais constamment insistante, au moment où en Union soviétique se développe la théorie du réalisme socialiste, c'est-à-dire bon, l'art réduit à la propagande et la promotion des formes les plus académiques qui soient, sous prétexte qu'il faut qu'elles soient perceptibles et reçues par tout un peuple, au moment donc de cette formidable régression, quel est l'artiste engagé qu'Aragon défend ? Eh bien, c'est un photographe, ou plutôt un artiste utilisant le médium photographique, qui s'appelle John Hartfield, qui est, je dirais, avec Rodchenko, l'inventeur du photomontage. Je dis avec Rodchenko, parce que Rodchenko l'a chronologiquement inventé, mais celui qui lui a donné sa principale intensité signifiante, c'est Hartfield. Et donc, à l'époque où... commence à triompher dans les pays de l'Est les fameux tableaux de tracteurs et de moissonneuses avec des héros positifs qui lèvent le poing. Il défend un art qui s'est inspiré du dadaïsme, qui en vient et qui a su utiliser un certain nombre de techniques de collage, découpage, remontage, comme ça, issues du dadaïsme, pour leur donner une portée politique, idéologique, mais qui va au-delà, avec une dimension onirique aussi qu'il souligne. Et puis, après avoir balayé ce passé comme ça, il revient dans l'actualité, et il évoque l'art du collage aujourd'hui, il évoque les papiers découpés de Matisse. À l'époque, pas grand monde n'avait compris l'importance de cette ultime période de Matisse. Il évoque le collage dans l'art du roman, et il fait une allusion à Godard, donc qu'il développera un an plus tard
dans
les lettres françaises et dans ce fameux article sur Pierrot le Fou. Or, ce qui est passionnant, c'est non seulement de voir la continuité de l'intérêt d'Aragon pour l'art du collage, du prélèvement d'un objet brut ou d'un texte déjà écrit, l'art de la citation, l'art de la réappropriation de la citation et du détournement de la citation.
Technique qu'il emploiera très largement.
Par l'insertion dans un autre contexte, technique qu'il emploiera très largement, technique dont, à mon avis, la référence théorique principale est Lautréamont, aussi bien le Lautréamont des Chants de Maldoror que le Lautréamont des Poésies, dont il a sans cesse soutenu que c'était le même, qu'entre le comte de Lautréamont et Isidore Dicas, il n'y avait pas rupture, mais continuité renversée. Bon, Lautréamont, c'est ça, bien sûr. Mais ce qui était fascinant quand on avait 20 ans à l'époque et qu'on tombait sur un petit livre comme celui-là, c'est qu'au même moment se développait aux États-Unis le pop art, c'est-à-dire un formidable art du collage, bon, l'intégration de l'objet, l'intégration de la photo citationnelle avec Warhol, l'utilisation d'images toutes faites de bandes dessinées chez Lichtenstein, etc. Se développait dans le cinéma l'art de Godard. Et quand on regarde un film comme Pierrot le Fou, ça ne cesse d'être rempli de collages, soit d'éléments de phrases publicitaires détournées dans une conversation,
d'images collées,
d'images de Picasso, d'images de Matisse et de textes d'Aragon. Godard a immédiatement, dès que La Mise à Mort est sortie, utilisé un passage de La Mise à Mort dans Pierrot le Fou. Il y a un moment où Belmondo lit Elifor, lit Les Pieds Nickelés, lit Aragon et lit Céline. Ce sont les quatre grands collages de Godard. Sans parler du collage d'un sketch de Raymond Devos. Voilà. Donc Godard pratique cet art du collage. Dans la littérature qui s'écrit à l'époque, c'est l'époque de la grande découverte d'Ezra Pound, c'est-à-dire du grand poète qui a utilisé le principe du collage dans son écriture, qui a fait que le matériau même de l'écriture poétique pouvait consister en des textes déjà écrits, que l'écriture reprend, refond, reprécipite, retransforme, détourne, etc. Bon. Avec l'énorme influence qu'a eu un poète comme Ezra Pound sur la jeune poésie française de l'époque, sur des gens comme Denis Roche ou Michel Deguy, par exemple. Bon, c'est l'époque où Burroughs pratique le cut-up, c'est l'époque du festin nu. C'est l'époque où le fait même de couper, de prélever, de couper, de remonter les textes devient des principes de l'art romanesque.
C'est l'époque où l'art du collage devient l'art moderne par excellence, le plus moderne possible.
Et je dirais même dans la musique, c'est l'époque où Luciano Berio est en train d'écrire sa Sinfonia, où il y a des citations, des prélèvements et des collages de Gustave Mahler présents au cœur de la modernité. Donc ce qui est fabuleux, c'est qu'Aragon, retraçant son parcours, lautréamontien, depuis les textes sur Max Ernst de 1923, jusqu'à l'art actuel de Jean-Luc Godard, est amené à rentrer en phase avec ce qui a un des courants les plus créatifs et les plus inventifs de son époque.
Il y a toujours eu, une vraie grande générosité et une grande attention de la part de Louis Aragon vis-à-vis du travail des jeunes écrivains. Alors, si vous voulez bien, Pierre Lartigue, nous allons prendre cette soirée du 14 décembre 1965 au Théâtre Récamier, dont vous avez restitué l'écho, finalement, à travers votre livre « Un soir Aragon », c'est paru aux Belles Lettres. Prélevons cette soirée et montrons comment Aragon a permis à six jeunes poètes de faire connaître leur travail.
Bien, écoutez, d'abord, il y avait pour nous, à cette époque-là, la possibilité d'envoyer les textes que nous écrivions d'abord à Aragon, qui les lisait. Non seulement il les lisait, mais il répondait Et il était directeur des lettres françaises, et assez souvent, il consacrait quelquefois 6 pages entières du journal à la publication de poèmes de jeunes gens qui étaient tout à fait des inconnus. Je ne vois pas aujourd'hui dans la presse un lieu qui puisse accueillir la parole et l'écriture poétique aujourd'hui des jeunes gens. Il faut se souvenir du rôle irremplaçable qu'avaient alors les lettres françaises comme lieu de découverte. Et puis, pour les gens qui écrivaient, c'était un encouragement considérable, parce que, pour ma part, moi j'étais très isolé, j'étais à cette époque-là à Bordeaux, je ne connaissais absolument personne, je ne connaissais que l'adresse de Louis Aragon. Donc, il a publié plusieurs fois des textes que je lui avais envoyés, très généreusement. Je souffrais beaucoup de cet isolement, et provincial, je me disais qu'il n'y avait qu'une seule manière de le rompre, c'était de me retrouver à Paris, au moins un moment, avec des gens qui, comme moi, écrivaient. J'avais lu dans les lettres françaises des poèmes de Maurice Regnault, par exemple, j'avais lu les sonnets de Jacques Roubaud, qui n'étaient pas publiés, n'est-ce pas, en livre à cette époque. Et j'ai téléphoné à Aragon, un jour d'automne, je me souviens, d'une cabine téléphonique, parce que je n'avais pas de téléphone à cette époque-là, chez moi. Et je lui ai dit, voilà, j'aimerais beaucoup que vous fassiez une soirée où vous feriez lire nos poèmes, parce que j'ai envie de rencontrer... Il me dit, mais tout à fait d'accord, viens quand tu veux. Je lui ai dit, dans 15 jours, il y a les vacances du 11 novembre, je peux... Oui, viens, je vais prendre contact avec d'autres. Et c'est comme ça que l'idée de la soirée... Alors, on a mis un an à la réaliser, parce qu'il fallait trouver un théâtre, il fallait rassembler les gens, il fallait rassembler les textes. Nous voulions une musique. Nous avons trouvé, à ce moment-là, un jeune compositeur qui était...
Jean-Yves Bosseur,
n'est-ce pas, qui venait juste de passer son baccalauréat. Et bon, tout cela s'est mis en place, et très luxueusement, au Théâtre Récamier, Aragon a convoqué plusieurs comédiens, Edith Scob, Vicky Messica, Antoine Vitez, qui n'était pas du tout connu à l'époque, n'est-ce pas, il venait juste de paraître dans le film de Romère, La nuit chez Maude. Pour ma part, mon poème devait être dit et a été lu, ce qui était le comble du luxe, par Michel Bouquet. Pour dire le soin avec lequel Aragon a préparé la soirée, j'ajouterai que pendant 8 jours dans l'Humanité, chaque jour, il a écrit un article pour présenter l'un d'entre nous et demander aux lecteurs qu'ils réservent leur place à la soirée du Récamier. Puis une page sur la musique, une page sur le spectacle lui-même et une double page dans les lettres françaises qui paraissaient le jeudi a été consacré à la préparation de cette soirée. Alors j'ai dans ce livre regroupé justement tous ces textes qui étaient oubliés dans les feuilles du journal, et je pensais qu'il était tout à fait légitime de marquer ma reconnaissance vis-à-vis de ce geste, enfin de cette action, parce que c'est plus qu'un geste qu'il avait eu.
Si vous me demandez à moi de vous parler des jeunes, je vous dirais, vous devriez plutôt en parler aux gens qui n'ont jamais parlé des jeunes. Il est vrai que j'ai, comme on dit, découvert, c'est-à-dire aimé, beaucoup de poètes plus jeunes que moi. Imaginez-vous que depuis plus de 40 ans que je reçois à peu près tout ce que les poètes publient, et par exemple l'immense masse des poèmes que les gens publient avec leurs 4 misérables sous, parce qu'ils ne trouvent personne pour les publier. Je n'en ai jamais rien perdu ni vendu. Tout cela est toujours dans ma bibliothèque. Ce sont des choses que j'ai chez moi,
que je respecte et de quoi j'ai toujours l'espoir, un jour ou l'autre, de faire sortir quelque chose que je n'y ai pas vu au premier moment. Je me suis beaucoup promis, j'ai peut-être un peu joué avec cette idée, mais c'est une idée qui prendra ou ne prendra pas corps, je n'en sais rien, qu'un jour, vers la fin de ma vie, et c'est-à-dire dans ces temps-ci, je me permettrai de faire une anthologie des poètes inconnus. Car beaucoup de ces poètes passent pour des poètes sans intérêt. Mais cela n'est pas vrai. Il n'y a pour ainsi dire pas un livre de poèmes où il n'y ait une strophe, un vers, une image peut-être, qui, si on savait la regarder, pourrait s'isoler et passer pour une beauté d'anthologie. Souvent, il m'arrive de dire du bien d'un livre, non pas que je n'en pense moins que ce que je dis, mais c'est parce que je les regarde avec le devenir que je leur souhaite, parce que je vois le grain qui peut se développer et que peut-être l'auteur ne sera pas développé. Le malheur est que beaucoup des gens auxquels j'ai cru ensuite ont été les victimes de la mode. Et c'est à la mode qu'il faut beaucoup s'en prendre du non-développement ou du développement niveleur. Les hommes qui ont en eux des possibilités très grandes vont les abandonner parce que simplement ils croient qu'ils se trompent de route, que la vraie route est celle sur laquelle il faut bien le dire, monsieur un tel réussit. Cela est très triste et de plus en plus fréquent de nos jours.
Alors, si vous voulez bien, on va lire quelques lignes des présentations qu'il fait des différents poètes. Il y a un texte d'ailleurs qui commence ainsi et qui justifie tout à fait vos commentaires et votre enthousiasme, Pierre Lartigue. Rien n'est plus contraire à l'essence même de la poésie que les commentaires académiques. Six poètes d'aujourd'hui à qui aurait pu suffire l'accompagnement d'une musique, laquelle joue ici le rôle d'ameublement, inventé en son temps par Eric Satie, ont pourtant voulu que je fasse au milieu d'eux figure, je ne sais, du cœur antique ou de Mademoiselle Oléo. Il est vrai que ces provocations de ma part, s'ils se sont réunis pour cette soirée, bien qu'à tout prendre, il n'est guère de rapport entre eux que l'âge. Si on les accuse pour cela d'éclectisme, il faudra bien que j'avoue en porter le seul péché.
À cette époque-là, j'avais envoyé quelques poèmes à Aragon, autres que le long poème qui s'appelait L'Hôtel des Ventes, que Michel Bouquet a lu ce soir-là. Et déjà, lorsque Aragon est amené à me présenter, ça doit être dans les lettres françaises, je pense, c'est tout dire, n'est-ce pas? Pierre Lartigue, bordelais, comme ce Pierre de Braque, qui fut ami de Michel de Montaigne et de Du Bartas. Vous voyez cette petite phrase, là, dans cette petite phrase. Eh bien, il y avait pour moi l'incitation à lire ce Pierre de Braque que je ne connaissais pas. Car vous savez, bien sûr, nous connaissons Michel de Montaigne et Du Bartas,
bien sûr.
Mais à cette époque, les sonnets à aimer de Pierre de Braque n'étaient pas publiés chez Droz.
Donc c'est un signe qu'Aragon vous adressait.
Lorsque je suis entré dans son bureau un jour, il m'a dit, mais est-ce que tu connais Pierre de Braque? Et alors je dois dire, j'ai confus, j'ai dit non, je ne sais pas. Eh bien, il faut que tu lises Pierre de Braque. C'était immédiatement, alors rentrant à Bordeaux, je suis allé à la bibliothèque et j'ai trouvé l'édition originale des sonnets de Pierre de Braque. Effectivement, je me suis tombé, je me souviens d'un de ses vers. Sans qu'au soir, feintement, tu t'enquisses pourquoi j'étais si douloureux, si pensif et si blême. Eh bien, ça vous coupe le souffle, ça. Enfin, peut-être une chose sur laquelle nous pouvons insister, c'est que il y a là six jeunes gens, enfin, certains, André Liberati était un peu plus âgé, mais Jacques Garelli, Pierre Lartigue, André Liberati, Regnault, Roubaud et Vargavstig, aucun de nous, sauf Liberati, n'avait alors publié
quoi
un
que
recueil.
Ce soit. Bien sûr.
Un recueil. C'est-à-dire.
Vous aviez juste envoyé des
poèmes. Nous avions envoyé des poèmes.
Voilà. Aux lettres françaises, notamment.
C'est ça, c'est ça.
Écoutez, j'ai toujours écrit ce que je pouvais écrire. Ensuite, les autres se débrouillent avec. Il y a une chose que, en tout cas, j'entends ne pas faire. Bien que, depuis quelque temps, on m'ait mis au programme et que, par conséquent, ma grande consternation, je vois qu'on prend dans mes livres 45 lignes ici ou 18 vers là, et qu'on les donne à lire à des jeunes gens et on leur demande de les commenter. C'est après quoi je souhaite vivement qu'ils me prennent en détestation, comme j'ai toujours fait les auteurs semblablement offerts à mon ingénue jeunesse. Moi, j'écris des choses avec beaucoup de prétention. Je ne crois pas qu'en écrivant d'une façon simplette, on écrit pour beaucoup de gens, parce qu'on écrit immédiatement pour beaucoup de gens, sans quoi la littérature, ce serait les livres qui se publient dans les romans de broderie. Non. Mais ce que j'écris, j'espère l'écrire pour énormément de gens. Moi, j'écris pour vraiment tout le monde. Ça ne veut pas dire que tout le monde me lit.